Il n'y a probablement pas de Dieu. Alors arrêtez de vous inquiéter et profitez de la vie. Alors c'est pas dans la Bible. C'est le slogan d'une campagne de publicité menée par des athées à Londres il y a quelques années, sur des affiches publicitaires qui étaient posées sur les bus de Londres, en fait. Mais comment est-ce que vous réagissez à ce genre d'affirmation aujourd'hui ? Il n'y a probablement pas de Dieu, alors arrête de t'inquiéter et profite de la vie, quoi. Beaucoup de gens pensent que la foi chrétienne aujourd'hui s'est dépassée. Beaucoup de chrétiens même, face aux critiques et face aux objections de la société, face à l'hostilité même parfois de leur entourage, assument difficilement leur foi, sont hésitants à se dire chrétiens. C'est toujours difficile de dire qu'on est chrétien quand on est entouré de camarades de classe ou de camarades à la fac qui sont tous athées et qui vont vraisemblablement vous trouver ridicule de dire que vous êtes chrétien. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de considérer en détail, d'une part, la substance du christianisme ? Qu'est-ce que c'est le message chrétien ? Qu'est-ce que c'est le message de la Bible ? Donc, d'une part, prendre ça. D'autre part, vous prenez, quelle est la substance des objections au christianisme ? Quelle est la substance de ce que pensent ceux qui sont hostiles au christianisme ? D'accord ? Et ensuite, de prendre également, troisièmement, la substance de la réalité dans laquelle vous existez, c'est-à-dire le réel qui vous entoure. Vous prenez ces trois choses, vous les confrontez les unes aux autres. Et est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous poser la question, mais qu'est-ce qui tient mieux la route, le mieux la route ? Le message chrétien face au réel, ou bien le message des non-chrétiens, des athées ou d'autres, face au réel ? Les affirmations du christianisme face à la réalité de mon existence, ou bien les objections au christianisme face à la même réalité de mon existence. Qu'est-ce qui tient le mieux la route ? Qu'est-ce qui est le plus cohérent ? Et je pense que ce que le texte qu'on est sur le point de lire veut nous montrer, c'est que la foi chrétienne peut faire face à la réalité de notre existence, faire face au réel, sans aucun complexe. Sans aucun complexe. Et donc on est appelé par ce texte, à notre tour, nous, à être des chrétiens décomplexés, des chrétiens sans complexe, à avoir une foi sans complexe. L'auteur, vous allez voir, veut nous montrer que les chrétiens n'ont pas à rougir ou à reculer devant les critiques, devant les objections, devant l'hostilité, parce qu'il ne fait pas de doute, et j'espère que vous en serez convaincus à la fin de ce message, il ne fait pas de doute que les chrétiens ont la vision la plus cohérente de la vie. La Bible a la vision la plus cohérente de la vie. Alors dans le texte, vous allez voir, il y a des gens qui accusent un chrétien, il y a un chrétien qui défend sa foi, et il y a un arbitre qui doit trancher entre les deux. Idéal, non, comme situation, pour se faire une idée. Des gens qui accusent un chrétien qui se défend, et un arbitre qui doit trancher entre les deux. Alors lisons le texte. Il s'agit de Livre des Actes, chapitre 24, versets 1 à 23. Donc, juste pour le contexte, Paul, il vient d'arriver à Césarée. Il est un prisonnier des Romains. D'accord ? 5 jours après, donc après l'arrivée de Paul, hein, le souverain sacrificateur Ananias descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertulle. Ils portèrent plainte auprès du gouverneur contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. La paix profonde obtenue grâce à toi et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, très excellent Félix, nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un moment dans ta bienveillance. Nous avons trouvé cet homme, une peste, qui provoque des disputes parmi tous les juifs du monde, dirigeant de la secte des Nazaréens, et qui a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons saisi. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias est survenu et avec une grande violence l'a tiré de nos mains et a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même l'interroger et prendre connaissance de tous ceux dont nous l'accusons. Les Juifs l'approuvèrent en déclarant qu'il en était bien ainsi. Alors Paul prit la parole après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. Je sais que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer. Je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville à discuter avec quelqu'un ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Et ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je le confesse devant toi. Je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé, moi, qui m'étais purifié, dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Mais quelques juifs d'Asie, ce serait à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai criée au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait la voix, les renvoya plus tard et dit « Quand le tribun Lysias viendra, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. Avant de regarder le texte en détail, je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Par elle, tu comptes nous instruire, tu comptes nous édifier, nous fortifier. Fais précisément cela, s'il te plaît, maintenant, par l'action de ton esprit. Aide-nous vraiment à comprendre ce que tu veux nous enseigner et à le recevoir et à le mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La foi chrétienne, c'est censé être une foi sans complexe. Premièrement, la parole à l'accusation, n'est-ce pas? L'auteur raconte ici dans le texte de quelle manière les détracteurs de Paul s'y prennent pour objecter à son témoignage, pour objecter en fait au christianisme, à la foi chrétienne. Et l'auteur nous raconte comment ils s'y prennent de façon à nous montrer, à nous révéler à nous les lecteurs, leur mauvaise foi, si j'ose dire. Alors, ils engagent un avocat qui s'appelle Tertulle, vous avez remarqué, parce qu'ils savent que ce gars-là, il saura faire preuve d'habileté et de ruse. Ces gens-là, on les appelait à l'époque des rhéteurs, des gens qui savent bien parler, qui savent bien manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, effectivement, qu'est-ce qu'il fait ce Tertulle? Qu'est-ce qu'il fait cet avocat? Il commence, versets 2 à 4, il commence en flattant le gouverneur. Ensuite, il porte 3 accusations graves et mensongères à l'encontre de Paul. D'abord, verset 5, que Paul trouble l'ordre public. Verset 5 toujours, qu'il dirige une secte. Et verset 6, qu'il cherche à profaner le temple. Accusation grave, mais mensongère. Et enfin, vous avez peut-être remarqué ça, l'avocat Tertulle, il va même victimiser ses clients vis-à-vis des forces de l'ordre qui sont intervenues lorsque Paul a comparu donc devant les responsables juifs. Vous avez dit qu'il avait, ça avait provoqué un peu des remous, un petit trouble, et les Romains ont dû intervenir, notamment pour la sécurité de Paul. Et donc là, Tertulle, il va même victimiser ses clients en disant « Nous l'avons saisi, nous avons voulu le juger sur notre loi, mais le tribun Lysias, un Romain, est survenu avec une grande violence. » Il l'a tiré de nos mains. Victimisation. Et donc, en fait, ce que l'auteur est en train de nous montrer ici, c'est que pour décrédibiliser Paul, pour le contredire, pour l'accuser, on a ici une stratégie qui s'appelle la stratégie de la diversion. Flatterie, accusations mensongères qui n'ont rien à voir avec le vrai problème, et enfin, victimisation. Jusqu'ici, Tertulle, l'avocat des plaignants, de ceux qui accusent, n'a pas du tout soulevé le vrai problème du christianisme. Il n'a pas du tout parlé de ce qui dérange profondément ses clients. Ce n'est que de la diversion, ce n'est qu'un écran de fumée. Et cette stratégie est vieille comme le monde. Elle est profondément ancrée en chacun de nous, n'est-ce pas? Il suffit de regarder un peu les politiciens lorsqu'ils sont mis en difficulté sur un plateau télé ou à la radio. quand le journaliste leur pose une question à laquelle ils ne veulent pas répondre, une question qui les gêne, une question qui les dérange, qu'est-ce qu'ils font? Ils flattent le journaliste. Ah, mais ça, c'est une excellente question, merci de l'avoir posée, c'est vrai que blablabla, blablabla, flatterie. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent les autres. Accusations mensongères, ou bien ils soulèvent de faux problèmes. Ils vont répondre à d'autres questions qu'ils vont inventer eux-mêmes. Comme là, Tertulle, il soulève la question des attroupements qui n'étaient pas vrais, de la profanation du temple, c'était pas vrai. Donc les politiciens, d'eux-mêmes ou de nos jours, ils vont soulever de faux problèmes et essayer de répondre aux questions qu'ils choisissent eux-mêmes. Et enfin, des reproches formulés aux partis adverses. Ce bilan catastrophique, c'est la faute de ceux qui nous ont précédés. Victimisation, stratégie de diversion, écran de fumée. C'est vieux comme le monde et c'est comme ça qu'on continue de répondre à des questions qui nous dérangent. C'est comme ça qu'on continue de faire diversion par rapport à des problèmes qu'on ne veut pas affronter. C'est ce que font les accusateurs de Paul ici. Comment ça se manifeste de nos jours par rapport au christianisme? Les trois objections les plus courantes au christianisme, c'est, je ne sais pas si c'est dans cet ordre, mais en tout cas ce sont ces trois-là. Le christianisme, on ne peut pas le réconcilier avec la science, donc la science prouve que le christianisme est faux. Où est-ce que j'en suis là? La foi chrétienne est responsable des guerres de religion, accusation, ou encore, comment peut-on croire en Dieu alors qu'il y a tant de souffrances dans le monde? Victimisation. On n'est pas très loin de la stratégie de Tertulle dans ce texte. Alors ces objections sont courantes et bien souvent elles sont sincères. Mais il faut se rendre compte qu'aucune de ces objections ne touche au cœur de la foi chrétienne, à ce qui est le vrai problème. Et ce problème, on va y venir dans quelques instants. Et donc, parfois, ces questions sont sincères, mais bien souvent, ce sont aussi des stratégies de diversion, des objections qui sont lancées comme pour faire un écran de fumée, pour dissimuler, cacher le vrai problème auquel on ne veut pas s'attacher. Alors, regardons ce qui se passe ensuite dans le texte. Après que la parole ait été donnée à l'accusation, la parole est ensuite donnée à la défense, c'est-à-dire à Paul. Et cette fois, on s'aperçoit en lisant le texte que l'auteur veut nous montrer que Paul se défend parfaitement, que sa défense, c'est du solide. D'abord, Paul ne flatte pas le gouverneur, contrairement à Tertulle, donc il ne va pas avoir recours à la même stratégie. Tout le monde sait d'ailleurs que Félix, en tant que gouverneur, ce n'est pas quelqu'un de très vertueux, donc le flatter sur sa vertu, c'est de l'hypocrisie pure. Et Paul, il n'est pas hypocrite, il ne va pas le flatter. Pourtant, il est quand même respectueux. Hein. Vous avez remarqué ça, verset 10. Je sais que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Mais ça tranche avec la stratégie de Tertulle. Ensuite, Paul va répondre point par point aux accusations mensongères qui ont été faites. Et qu'est-ce qu'il va opposer à ces accusations, sinon une parfaite transparence. Vous avez remarqué le vocabulaire qu'il emploie? Tu peux t'en assurer, verset 11. Verset 12, on m'a trouvé ni dans le temple, ni dans la synagogue à provoquer des soulèvements. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent. Verset 14, je le confesse devant toi, autrement dit, je te le dis librement, ouvertement. Je rends un culte au Dieu de mes pères, transparence. Je suis juif, et je rends un culte au Dieu des juifs. Ainsi et ainsi de suite. Transparence. Et enfin, il ne se victimise pas, contrairement à Tertulle et ses clients, mais il accepte et il invite l'accusation et le jugement, si toutefois il y avait de quoi l'accuser et de quoi le condamner. Versets 19 et 21. Ce serait à eux de se présenter. Qu'ils viennent m'accuser. Ça ne me dérange pas, j'ai rien à cacher. Verset 20. Qu'ils déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable. Autrement dit, moi, je suis prêt à répondre de mes actes. Venez. Donc, il ne se victimise pas. Au contraire, il se met en avant. Il dit, accusez-moi. Donc, il oppose une parfaite transparence à la stratégie de Tertulle. Au lieu de flatter, il est sincère. Au lieu de porter de fausses accusations, il se montre transparent, et au lieu de se victimiser, il se montre sûr de lui. L'auteur nous raconte cela, et il met délibérément en contraste l'intervention de l'accusation et l'intervention de la défense, l'intervention de Tertulle et l'intervention de Paul, donc, pour nous montrer que les deux sont radicalement opposés. Il veut nous montrer qu'entre les deux, il y en a un qui tient beaucoup mieux la route. C'est Paul, évidemment. Et à travers Paul, c'est le camp du christianisme. C'est comme si tous les deux, Tertulle et Paul, étaient allés, disons, à Ikea et avaient acheté un meuble en kit, mais ils n'avaient pas la même stratégie pour le monter. Et Tertulle, lui, il le monte n'importe comment, il ne regarde pas les instructions, il finit par avoir un truc qui tient debout, mais qui est un peu bancal, il y a des pièces en trop, on ne sait pas trop où elles appartiennent. Et puis de l'autre côté, l'auteur nous montre le meuble de Paul. Alors lui, son meuble, il tient debout, il n'est pas bancal, toutes les pièces sont utilisées, c'est fonctionnel, c'est bon. Il nous montre les deux. Et là, il nous dit, c'est qui tient le mieux la route entre les deux? Évidemment, c'est Paul ici, qui tient le mieux la route, c'est le christianisme qui tient le mieux la route, qui n'a pas besoin d'avoir recours à des stratégies malhonnêtes, à la flatterie, à la victimisation, au mensonge, pour tenir debout. Vous comprenez? Et l'auteur, il faut savoir que quand l'auteur écrit le livre des Actes, il est en train d'écrire à des destinataires, des lecteurs qui, dont les premiers sont les premiers chrétiens en fait. Les premiers chrétiens, notamment issus du monde non-juif. Et donc l'auteur du livre des Actes écrit ces choses, et notamment tout cet épisode de Paul qui témoigne de Jésus auprès des non-juifs à Césarée et plus tard à Rome, il écrit tout ça pour leur donner du courage, pour leur donner des arguments, pour les rassurer, pour leur montrer que s'ils sont chrétiens, ils peuvent s'afficher comme chrétiens sans complexe. Parce que Paul l'a fait avant eux, et il l'a fait devant des autorités qui sont des autorités importantes. Et à notre tour, on peut tirer du courage de ce genre de texte, et voir que si Paul, devant un gouverneur, a pu tenir tête à un spécialiste de la manipulation, qui était Tertulle, alors nous aussi, nous n'avons pas à rougir de notre christianisme. Il n'y a pas de vision du monde plus cohérente que celle que la Bible nous propose. J'en suis profondément convaincu. Si vous ne l'êtes pas, on peut en discuter. La Bible raconte l'histoire du monde. Elle nous parle de la dignité de l'homme. Elle nous parle du sens de la vie de l'homme. Elle nous parle de l'amour que Dieu porte aux hommes parce que les hommes sont ses créatures. La Bible nous parle de notre soif d'indépendance et d'autonomie, ce qui nous a séparés de Dieu, ce qui a introduit le mal dans ce monde, ce qui a introduit la souffrance et la mort. La Bible nous parle de Dieu, notre Créateur, qui ne nous a pas abandonnés pourtant, mais qui est venu prendre sur lui les conséquences de nos fautes en la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix à notre place. La Bible nous parle de la résurrection de Jésus, qui manifeste une victoire suffisante, une victoire cohérente sur le mal, sur la mort et sur tous les obstacles qui nous empêchaient de connaître Dieu. Et la Bible nous parle de placer notre confiance en Dieu pour être sauvés, pour recevoir l'espérance de la vie éternelle, pour recevoir le pardon de nos fautes, pour être réconciliés avec notre Créateur. Et mes amis, on met toutes ces choses ensemble et on voit que c'est cohérent. Il y a là une vision cohérente du monde. C'est une vision intégrale, une vision qui tient la route, une vision du monde qui répond à nos questions les plus fondamentales, la question du sens de notre vie, la question de nos origines, la question de notre destinée. Toutes ces choses, la Bible nous offre des réponses cohérentes, ça tient la route, c'est du solide, c'est du costaud. C'est un meuble qui est bien monté, si j'ose dire. Et là, dans ce passage, Paul, en tant que spécialiste des Écritures, vous savez, il était pharisien avant de devenir un apôtre chrétien, il était pharisien, donc il était un grand spécialiste des Écritures de l'Ancien Testament. Il sait, en tant que spécialiste de ces choses, il sait ce qui constitue la substance de sa foi. Et pas une seule seconde dans ce passage, il n'est ébranlé par les accusations ou les objections qui sont portées contre son témoignage. Il sait, il est lucide, il voit bien que la stratégie de ses accusateurs, c'est une stratégie de diversion qui cherche à éviter le vrai problème. Et c'est pourquoi, à la fin de son plaidoyer, là, il va ramener le débat à l'essentiel. Là, il va mettre le doigt là où ça fait mal, si j'ose dire. Quelle est cette question qui dérange vraiment? C'est celle de la mort, en fait. Verset 21. À moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai criée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. La mort, c'est le point de contact, si j'ose dire, de tout le monde. Parce que face à la mort, toutes les questions les plus fondamentales de notre existence ne peuvent plus être évitées. On peut passer sa vie à essayer de les éviter, ces questions, par des divertissements. Mais le moment venu, le moment fatidique venu, on ne peut plus éviter les questions les plus fondamentales qui touchent à notre existence. La mort, c'est le point d'interrogation qui vient à la fin de la vie. C'est ce point d'interrogation que nous sommes tous enclins à éviter à tout prix, parce que ce point d'interrogation exige une réponse qui soit cohérente, qui soit solide, qui tienne la route. Parce que face à la mort, on ne peut pas se tromper. Il faut qu'on sache ce que c'est que la mort. Il faut qu'on sache ce qu'il y a après, si toutefois il y a quelque chose après. Il faut qu'on sache si les morts vont ressusciter. Puisque la mort est une expérience future et unique, qu'on ne fait pas plusieurs fois, puisque la mort est une expérience future et unique, il n'y a rien aujourd'hui que nous pouvons opposer à la mort, sinon la foi. Mais la foi chrétienne, ce n'est pas une confiance aveugle, ce n'est pas décider, bon, moi j'ai décidé aujourd'hui, par la foi, qu'après la mort, je vais me réincarner en éléphant et je vais vivre paisiblement dans la brousse, quoi. Et je vais croire ça, c'est ça qui va me donner de l'espérance, qui va donner un sens à ma vie. Et c'est fondé sur quoi? Ouais, c'est une sorte de foi, mais ce n'est pas la foi biblique. Parce que la foi biblique, ce n'est pas une confiance aveugle. Ce n'est pas croire n'importe quoi. La foi biblique, c'est une confiance fondée sur quelque chose de probant, quelque chose de cohérent, quelque chose de solide, quelque chose auquel on peut se fier. Et cette chose à laquelle on peut se fier, c'est l'évangile, c'est le message de la Bible. Et c'est là-dessus que Paul s'appuie de tout son poids face à ses accusateurs. Ce n'est pas une foi aveugle, la foi de Paul. C'est une foi informée, une foi intelligente qui s'appuie sur quelque chose de probant, de cohérent. Et le seul endroit où on voit des réponses cohérentes, les plus cohérentes en tout cas, les plus solides aux questions de notre existence, le seul endroit où on a ces réponses, aux questions les plus fondamentales, les plus problématiques de notre existence, le seul endroit, c'est au pied de la Sainte Croix. C'est devant la croix de Jésus. Parce que devant la croix de Jésus, le problème de la souffrance, le problème de la mort, le problème du sens de la vie, sont tous résolus par la mort et la résurrection de Jésus. Et en fait, personne n'a jamais, ne pourra jamais proposer mieux, en réponse à ces questions, que ce que Dieu nous offre, dans la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui dérange tant les accusateurs de Paul. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Et ils préfèrent faire diversion, ils préfèrent flatter l'arbitre, le juge de la situation, ils préfèrent se victimiser, ils préfèrent porter des accusations mensongères que réellement entrer dans le vif du débat, si j'ose dire, dans le vif de la question. Ils préfèrent ça. Parce que ça les dérange tant. Et nous encore, aujourd'hui, ça nous dérange. C'est un scandale d'après la Bible. Ce que Dieu a fait pour résoudre le problème des hommes, c'est un scandale. Que Dieu ait envoyé son Fils, que Dieu en fait se soit incarné pour venir en personne, sous la forme d'un homme, souffrir à la place des croyants, être humilié, abusé, rejeté, trahi, torturé, pour mourir enfin, être enseveli. Ça défie l'entendement quelque part. Et pourtant, il n'y a rien de plus cohérent. Il n'y a rien qui tienne mieux la route en réponse à nos problèmes concernant le sens de la vie, notre origine, notre destinée, en ce qui concerne la mort, en ce qui concerne ce qui vient après la mort, en ce qui concerne notre raison d'être en tant qu'êtres humains, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, possible, pas possible, comment être réconcilié avec un Dieu saint. Alors que nous, on est pécheurs. Toutes ces questions trouvent une réponse parfaitement suffisante par la mort et la résurrection de Jésus. Et rien ni personne n'a jamais proposé mieux que ça. Alors Jésus résume tout en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Personne n'a jamais pu dire ça, hein, à part Jésus. Paul y dit « En Christ sont cachés tous les trésors de la connaissance. » Ou encore, tout a été créé par Christ et pour Christ, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il n'y a rien de mieux que Christ comme réponse aux questions les plus fondamentales de notre existence. Mais pour finir, regardons la réaction du juge. La parole a été à l'accusation, ensuite à la défense. L'auteur a mis les deux en contraste pour nous montrer que la défense tient bien mieux la route que l'accusation, et cela pour nous encourager en tant que croyants. Et maintenant, regardons la réaction du juge, à savoir la réaction du gouverneur Félix. Le texte dit que Félix savait assez exactement ce qui concernait la voie. Et la voie, dans ce contexte, ça désigne le message de l'évangile, en fait, le message du christianisme. Donc, autrement dit, au verset 22, le texte est en train de dire que Félix connaissait assez bien le christianisme. Il savait de quoi il en retournait. Alors il entend la défense de Paul, il constate que Paul est parfaitement transparent, il constate que Paul a un témoignage qui est cohérent, une défense cohérente qui tient la route, qui est une défense qui est bonne, quoi. Et maintenant, Félix doit trancher entre Paul et ses accusateurs. On peut même supposer qu'en entendant Paul faire référence à la foi des Juifs, à la foi de ses pères, etc., on peut même supposer que Félix a été renvoyé à ce moment-là à tout ce qu'il avait déjà entendu au sujet de la voix, et même à tout ce qu'il avait déjà entendu au sujet des prophètes, des textes de l'Ancien Testament. On peut supposer, et le texte, à mon avis, le sous-entend, que Paul comprend assez bien intellectuellement, même très bien intellectuellement ce que c'est que le christianisme. Mais Félix refuse de trancher. Il ne veut pas se mouiller. Il remet sa décision à plus tard. Il opte pour une position plus ou moins intermédiaire où il cherche à satisfaire un peu les deux camps. Solution intermédiaire, pourquoi ? Parce que d'une part, il ne relâche pas Paul, parce que les Juifs ne seraient pas contents, donc il le garde, il le maintient comme un prisonnier, mais en même temps, il ne condamne pas Paul. Position intermédiaire, il remet à plus tard. Il dit, oh, quand Lysias, le tribun, viendra, ben dans ce cas, à ce moment-là, on réfléchira de nouveau à la question. Et la réaction du gouverneur, à mon avis, elle nous est rapportée ici pour nous montrer chez lui un manque de lucidité et chez lui aussi une mauvaise foi qui défie toute logique. Parce que Félix est placé devant un dilemme dont les enjeux sont de la plus haute importance. Paul vient de parler de la résurrection des morts. Je veux dire, si les morts ressuscitent ou si les morts ne ressuscitent pas, ça change tout, non ? Par rapport à ce fameux point d'interrogation qui vient à la fin de la vie. Donc il vaut mieux savoir, non ? Il vaut mieux trancher entre les deux. Soit les morts ressuscitent, soit ils ne ressuscitent pas. Donc Paul vient de soulever un enjeu extrêmement important qui concerne Félix, au premier plan, puisque lui aussi va mourir. Mais il ne veut pas se mouiller. On va en rediscuter plus tard. Imaginez l'arbitre d'un match de rugby. Alors, grosse action, grosse tension, près de la ligne d'en-but, un joueur aplatit le ballon. Mais personne ne sait pour sûr s'il y a essai. Alors, qu'est-ce qu'il est censé faire, l'arbitre ? Il demande la vidéo, n'est-ce pas ? Il demande la vidéo parce qu'il est obligé de trancher, il est obligé de prendre une décision. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit le ballon a été aplati avant la ligne, il n'y a pas essai, il n'y a pas de point. Soit il a été aplati sur la ligne ou au-delà de la ligne, et là, il y a essai. Je ne me trompe pas, c'est fort, c'est bon. Il n'y a pas de solution intermédiaire. L'arbitre, il ne peut pas dire, bon, on continue à le jouer, on décidera plus tard. Il ne peut pas dire ça, d'accord ? Il ne peut pas non plus répartir les points. Il dit, bon, c'est ambigu, je vous donne la moitié des points chacun. Il ne peut pas faire ça. C'est absurde, ça défie la logique si l'arbitre réagissait comme ça. Mais Félix, il est placé dans une situation où les enjeux sont beaucoup plus importants que ceux d'un match de rugby. Mais il refuse de se mouiller. Il essaye de répartir les points entre les deux camps. Il remet à plus tard sa décision. Et je pense que l'auteur veut nous montrer ici un contre-exemple flagrant. Si on est au courant de ce qui concerne la voie, si on est au courant de ce qui concerne l'évangile ou le christianisme, et qu'on ne se positionne pas par rapport à ça, c'est une réaction absurde. Ça défie toute logique. quand on connaît les affirmations du christianisme, on doit se positionner sans tarder. On doit le faire, si on a un minimum de lucidité, un minimum de sincérité. Il n'y a pas de zone intermédiaire entre les deux. On ne peut pas dire, pour l'instant, je suis neutre, et plus tard je choisirai mon camp. C'est pas possible. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Alors on verra la semaine prochaine quel est plus exactement le problème de Félix. Et on s'intéressera d'un peu plus près au syndrome de Félix, si j'ose dire, la semaine prochaine, dans la suite du texte. Mais pour finir, je voudrais juste revenir à la question que je posais au départ. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de considérer vraiment la substance du message du christianisme, la substance du message de la Bible, la substance des objections à la Bible, le réel, la réalité dans laquelle je vis et j'existe? Et est-ce que j'ai déjà pris le temps de confronter ces choses entre elles et de voir qu'est-ce qui tient le mieux la route? Est-ce que c'est le christianisme qui tient le mieux la route face au réel? Ou bien est-ce que ce sont les objections ou les objecteurs au christianisme qui tiennent mieux la route dans la substance de leur message? Qu'est-ce qui tient le mieux la route? Si vous prenez le temps, honnêtement, sincèrement, de confronter ces choses, je suis sûr que vous verrez, par la grâce de Dieu, que ce qui tient le mieux la route, c'est bien le christianisme, c'est bien le message de la Bible, c'est bien l'évangile. Seule la foi chrétienne, j'ai envie de dire, peut faire face à la réalité sans aucun complexe. Sans aucun complexe. Malgré l'impression qu'on a, parce qu'on vit dans un contexte qui n'est pas chrétien, qui est parfois anti-chrétien. Alors ça a tendance à nous intimider, à nous complexer, d'accord ? À nous rendre tout timides et hésitants. Mais prenons exemple sur Paul, face à ses accusateurs. Parfaite transparence. Non, je sais ce que je crois, tu sais ce que je crois. Prenons le temps d'en parler. Il y a des sujets qui fâchent, pourquoi les éviter ? Parlons-en, et vous verrez que le christianisme tient la route. La Bible nous invite à arrêter de vivre dans l'incohérence, en fait, l'incohérence qui consiste à dire que la vie a un sens et à vivre comme si la vie avait un sens alors qu'on n'a pas répondu à la question qui se pose à la fin, qui est celle de la mort. Ça, c'est totalement incohérent. Si on n'a pas répondu au point d'interrogation de la vie qui est la mort, il est impossible d'affirmer que la vie a un sens et de faire comme si la vie avait un sens. Enfin, on peut le faire, mais c'est incohérent. Au lieu de cela, la Bible nous invite à entrer dans une vie cohérente en Christ, en étant attaché à lui par la foi, et à demeurer dans cette cohérence en Christ, sans complexe. Comme le fait Paul d'ailleurs, qui dit, sans rougir, ben « Moi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant tous les hommes. » Amen. On va prier. Seigneur, remplis-nous de ce courage que Paul a eu face à ses détracteurs, face à ceux qui l'accusaient, face à ceux qui détestaient le christianisme, en fait. Aide-nous à avoir ce courage, nous qui vivons dans un contexte qui est également assez hostile au message de la Bible. Aide-nous à voir aussi la cohérence de tout ce que tu nous enseignes dans ta parole. Aide-nous à en être certains jour après jour, que tes réponses, ton message, ton discours, Seigneur, est fiable. Et aide-nous à en témoigner autour de nous. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.